У нас небольшая накладка в программе, там просто видно, не так были сделаны операции копировать и перенести. Но вот тема доклада такая: достоверность факта и аутентичность пятикнижия. Дидро и Аббат Прат как толкователи Писания.
Bon, je vais parler français, je m'excuse, je vais après me traduire en russe, parce que en fait on n'a pas d'issue. Je suis le seul traducteur interprète, n'est-ce pas, présent dans cet auditoire. Pardon ? Ah, bon, on verra. Bon, donc, le thème de mon rapport, certitude des faits et authenticité du Pentateuque, Jean-Martin de Prades et Denis Didot comme exégètes de l'écriture. En contradiction en quelque sorte avec le titre, je vais me concentrer surtout et en premier chef sur de Prades, qui a consacré à l'exégèse et à l'interprétation biblique beaucoup d'avantages, n'est-ce pas, par rapport à Diderot. Donc, je vais m'arrêter avant tout sur des points donc qui apparente l'exégèse encyclopédiste, l'exégèse des Lumières, avec la réflexion, l'herméneutique biblique du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Donc je vais signaler avant tout les moments traditionnels, prenant en considération ce que il vient de dire, que les textes de Prades représentent rien d'autre en fait qu'un enchaînement de lieux communs. Donc la stratégie de lecture de ces textes se ramène en fait dans le au déchiffrement, n'est-ce pas, de ces lieux communs. Alors, donc ces points que je voudrais signaler, tout d'abord, ce sont les implications politiques du fait, notion du fait et de la notion de certitude. Ces implications politiques sont mises en avant par de Prades lui-même. Il écrit, je cite, « La prudence, c'est dans l'Apologie qu'il écrit cela. La prudence, s'il est permis de parler ainsi, n'est qu'une conséquence dont le présent et le passé sont des prémices. Elle est donc appuyée sur des faits. Donc la prudence est une notion parfaite des faits et donc la maîtrise des faits. Cette observation dans le texte des Prades n'est pas sans précédent. Et surtout, elle renvoie à des textes qui ne sont pas présents à l'horizon immédiat de Prades, mais quand même qui étaient d'une importance particulière. Par exemple, La science nouvelle de Jean-Baptiste Vico. La science nouvelle est un exemple représentatif parce que Vico donc, a articulé très nettement certaines observations qui restent clandestines chez les autres. Donc il a défini sa science dans une des lettres comme critique, la critique la plus certaine de l'arbitre humain. Critica certissima dell'umano arbitrio. C'est dans une des lettres à François Xavier Esteban. De 1729. Donc c'est à peu près la même époque. Pourquoi donc cette situation, qu'est-ce qu'il a en commun avec la citation de Prades? Avant tout, ce que Vico appelle l'arbitre humain n'est rien d'autre que l'univers des actions humaines, c'est-à-dire des faits. Dans les axiomes de la science nouvelle, Vico associe évidemment très nettement ces choses. Il dit donc que l'arbitre, le fonctionnement de l'arbitre humain mène à la production des faits. Le fait, c'est ce qui apparaît comme résultat de l'arbitre humain. Donc, la prudence, ce que ce même Vico dans ses œuvres, dans ses premiers ouvrages appelés prudence, et ce que De Prade appelle prudence, et ce que Vico a ensuite appelé science nouvelle, parce qu'il a mis la notion de prudence à part. Donc, le but de cette prudence, de science nouvelle, est d'apprendre à maîtriser les faits, n'est-ce pas? Donc, mais comment peut-on maîtriser les faits? Pas. Donc, la question des faits, c'est la question, selon De Prade, n'est-ce pas, c'est la question de la certitude morale. Donc, c'est le champ, n'est-ce pas, le domaine où le problème épistémologique s'unit, s'associe au problème politique. N'est-ce pas, il ne forme qu'un. Donc, il s'agit d'une épistémologie politique, donc un phénomène de notoriété relativement à cette époque-là. La certitude morale, il y a trois espèces de certitude, n'est-ce pas? Certitude métaphysique, certitude où elles sont quatre, ça peut être différent. Donc, il y a la certitude morale, certitude logique, certitude métaphysique et parfois, on distingue aussi certitude physique. Ce discernement des certitudes remonte, en fait, en fin de compte, au fond, remonte à la scolastique catholique post-tridentine, à la renaissance des modalités statistiques dans les écrits des auteurs tels que Ruiz de Montoya, de Sébastien Izquierdo et autres scolastes catholiques espagnols avant tout. La science scolastique, ces notions restent isolées de la pratique politique. Donc, elles restent à part. Tandis que dans la pensée de Recensores, c'est-à-dire des auteurs nouveaux, tels que Jean-Baptiste Vico par exemple, ou autres personnages tels que Kondrink, ou auteur de notion de l'architectonique politique, ou Hertzius, ou un nombre d'autres personnages, cette notion donc assume des connotations, donc assume des fonctions pratiques. On commence à raisonner sur ce comment mettre en œuvre, n'est-ce pas, ces certitudes différenciées. Donc en ce qui concerne la certitude métaphysique et logique, on les met à part. En ce qui concerne la certitude morale, ce qui nous intéresse avant tout, la certitude morale une des variantes possibles que De Prade mentionne si bien consiste, donc comment peut-on maîtriser cette certitude? Comment peut-on maîtriser les faits? La première réponse, on peut les calculer. C'est-à-dire ce qui donne naissance à la statistique dans des formes différentes. Non seulement statistiques mathématisées, n'est-ce pas, mais aussi bien on trouve une réflexion philosophique très développée chez, par exemple, ce Kondrink que je viens déjà de citer. On peut calculer la certitude, mais c'est la vue contre laquelle De Prade, ou à laquelle De Prade s'oppose. Dans son article et dans son apologie, il ne se réfère pas ni à Vico, bien sûr, ni à Kondrink, qu'il ne connaissait peut-être pas. Se réfère à d'autres personnages, avant tout à John Craig, c'est pas un des Newtoniens très célèbre, et auteur d'un traité Théologia Principia Mathematica et un article sur les probabilités mathématiques dans les Philosophical Transactions. à des prades renvoient à l'un à l'autre. De Prades nous dit que la certitude ne peut pas être calculée. La façon de maîtriser l'univers de l'arbitre humain, ce n'est pas le calcul. Il dit que la certitude, à la différence de la probabilité, est indivisible, n'est-ce pas ? Et donc incalculable. Qu'est-ce que c'est que cette certitude indivisible ? De Prades la définit comme concurrence des passions. Donc, la concurrence des passions donne non seulement la certitude, mais c'est justement ce qu'il définit comme fait. Le fait n'est rien d'autre qu'une concurrence de passions. Ce qu'il appelle point fixe de combinaison. Pour avoir quelque chose de certain, et non seulement de conjectural, on ne peut pas compter sur mathématiques. On doit compter sur, ou baser sur la nature humaine. C'est la nature humaine qui permet de rendre notre raisonnement sur l'histoire et sur les faits certains. Son point de départ est très intéressant aussi bien, parce qu'il contredit à certaines intuitions de l'époque. Par exemple, il dit, les préjugés séparent les hommes. Le préjugé, c'est ce qui rend les hommes divers. Mais c'est justement, c'est ce qui s'oppose nettement à la notion du préjugé chez Picot, par exemple, et chez Bacon, qui parlait d'un accord, de ce qu'il appelait un accord dans l'anticipation de la nature. Donc, le préjugé pour Bacon, aussi bien que pour Picot, c'est justement ce qui rend l'action humaine uniforme. C'est sur cela que se fonde la valeur politique du préjugé. C'est pour cela que le préjugé est politiquement valable et utile. C'est pourquoi le préjugé est si difficile à combattre. N'est-ce pas ? Parce qu'il réunit, unifie les gens. Selon De Prades, tout au contraire, bien au contraire, le préjugé, c'est ce qui sépare les gens. Ici, il suit les lignes de raisonnement qui pourraient mener à des penseurs tels que Jean Tolante, par exemple, qui a élaboré une conception très très intéressante du morcellement de communication, des champs communicatifs dus aux préjugés. Exactement. Donc, mais en fait, on peut qualifier cette approche vers le préjugé comme caractéristique des partisans des Lumières. Préjugé, c'est ce qui sépare. Le préjugé, pour surmonter le préjugé, n'est-ce pas, il faut, pour dépasser le préjugé, il faut se référer au fait. Le fait, c'est ce qui apparaît spontanément, n'est-ce pas, comme résultat de l'action spontanée, de l'action sociale spontanée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette définition du fait reproduit littéralement, sans aucune possibilité d'influence directe, n'est-ce pas, la définition du fait chez lui, qui partait des prémices tout à fait complètement différentes, mais qui en est venue à la conception du fait totalement identique. Le fait comme résultat, n'est-ce pas, de l'action collective spontanée. Ce sont justement quelques observations, n'est-ce pas ? Je ne prétends pas à des généralisations ultimes, n'est-ce pas, de caractère final, seulement quelques observations. Bon, encore deux lignes que je vais tracer de façon pointillée. Donc, le fait, n'est-ce pas? Quelles sont les difficultés et les aponies liées à cette notion? Sauf prudence. C'est le mode du raisonnement sur la préhistoire, sur le stade préhistorique de l'humanité. Et ce n'est pas par hasard que De Prade dresse toute une liste des auteurs qui donc se sont appliqués à faire donc de cosmologie, n'est-ce pas, du raisonnement de l'origine du monde, une science certaine. Et c'était la cosmologie, c'était un champ du raisonnement hypothétique. Chez auteurs tels que Charles Burnett, Jean Tolan, que je viens de citer, ce champ avait été réservé au raisonnement hypothétique d'inspiration cartésienne. Ce que De Prade fait, il renverse la perspective et donc là où régnait l'hypothèse, il établit le fait. N'est-ce pas? Ce n'est pas sans précédent. Par exemple, Buffon fondait aussi bien son raisonnement sur 5 faits, mais ça, c'est un problème à part. Ça, c'est justement une observation. Et dernière chose, et je conclue, dernière chose qui concerne ce que j'appellerais, moi, économie de l'information politique, parce que j'ai pas réussi à trouver un terme plus convenable. Donc, il s'agit du discernement du discours ésotérique et exotérique dans le raisonnement politique. Ça, c'est aussi un point commun, un lieu commun dans la littérature de l'époque des Lumières, mais par exemple, comme point commun que tout le monde connaît, bien sûr, cette idée s'exprime dans ce qu'on appelait le complot des sacerdotes, n'est-ce pas ? Donc il y a une certaine langue, n'est-ce pas ? Une certaine société qui empêche au savoir, à la vérité, au fait. N'est-ce pas, parce que la vérité est associée au fait, de se répandre et donc de coïncider avec les limites de la société. Chez De Prade, cette idée prend forme c'est la dernière chose que je voulais dire et m'arrêter là-dessus. Quand il nous explique pourquoi le fait peut parvenir jusqu'à nos jours sans être mutilé, n'est-ce pas, la seule façon d'interférence, n'est-ce pas, la seule façon qui puisse empêcher au fait de rester certain, c'est le complot qu'il comprend comme une action consciente. Il y avait toujours un groupe social qui se mettait le but de prohiber la vérité de se répandre. Donc, c'est aussi un point commun des Lumières, de l'époque des Lumières. Ce qui est intéressant, que chez les opposants des Lumières, tels que Vico par exemple, cette idée est totalement déconstruite. Vico, dans un des paragraphes de la science nouvelle, il refuse cette idée en expliquant l'ésotérisme du discours par des motifs purement sociaux. N'est-ce pas ? Donc, c'est sur ce fond et dans ce contexte que nous devons placer selon moi, De Prade. Merci.
Merci beaucoup.